Auchan.fr. Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal et juste après le Club des Idées, le nouveau rendez-vous d'Europe Soir. On vous décrypte le monde qui change, comprendre, réfléchir, débattre et prendre le temps de se faire son opinion avec aussi la carte blanche de nos éditorialistes, un coup de gueule ou un coup de cœur sans concession. Et ce soir, le bonheur est-il dans le pré? On en parle avec nos invités. 83% des cadres franciliens disent vouloir partir s'installer à la campagne. Mais est-ce si simple? Et que révèle ce mouvement sur nos rapports au travail? On en débat ce soir avec nos invités. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir et à poser vos question hashtag Europe 1. 19h15, le coup de griffe de Nicolas Bouzou. Face à l'insécurité, il faut des moyens, nous dira-t-il, pour la justice. Et puis 19h50, un jour une histoire, on regarde dans le rétro avec nos archives. Vive les trains de nuit, nous dira Aurélien Fleureau. Mais d'abord le journal Isabelle Millet. Il est 19h et vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
On ne sait pas effectivement si les récréations doivent se passer avec l'ensemble des élèves de l'école, si tous les élèves peuvent être mélangés au réfectoire. On a besoin d'avoir ces réponses-là et il faut que ça soit écrit noir sur blanc.
La grande inconnue à une semaine maintenant de la rentrée scolaire, comment ça va s'organiser? Tout le monde se pose beaucoup de questions. Eh bien, Europe 1 a les premières réponses.
Pas d'annonce à l'issue du Conseil de défense ce matin. Les professionnels du spectacle espèrent toujours que les mesures de distanciation sociale seront assouplies.
Un coup de pouce pour les PME. Le gouvernement promet notamment l'allongement de la durée des prêts garantis afin de soulager la trésorerie des entreprises.
Quand la violence s'invite dans une querelle de voisinage, un maire de Seine-et-Marne frappé à plusieurs reprises par un habitant.
L'empoisonnement d'Alexei Navalny. Le ton monte, la France à son tour dénonce un acte criminel. On écoutera l'éclairage de Didier François. Et puis en cette veille de sortie ciné, la déception pour les fans français de la guerrière chinoise. La sortie du film Mulan, prévue le 4 septembre sur Disney+, est repoussée en France. Heureusement, il y a plein d'autres films sympas à voir, nous dira Mathieu Charrier, notamment le blockbuster Tenet de Christopher Nolan.
Et puis on se mettait où avec Anissa? Toujours beaucoup de vent, Anissa.
Oui, le vent souffle fort demain sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Le vent s'engouffre aussi demain jusque dans les terres, direction la Bourgogne et les Ardennes. Dans le sud aussi, le vent se renforce. Attention, un risque élevé d'incendie pour le sud. Sur l'ensemble du pays, la journée est assez ensoleillée. Parfois, contrariée par les nuages, les températures commencent à baisser. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on vous l'annonçait dans le journal de 18h, la question de la gratuité des masques pour les collégiens et les lycéens semble tranchée. Le masque sera bien à la charge des familles, sauf pour les plus fragiles.
Oui, on aura sans doute plus de détails demain lors de la conférence de presse du ministre de l'Éducation et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur Europe 1 puisque beaucoup de voix s'élèvent d'ores et déjà pour dénoncer cette décision.
Alors, concernant la rentrée, dans une semaine tout juste, donc il y a cette question des masques, bien sûr. Mais Théo Manval, le gros enjeu pour éviter d'éventuelles fermetures d'établissements en cas de contamination, c'est la question du brassage des élèves.
Oui, le fait de laisser se croiser des classes différentes à la cantine ou aux récréations, c'était interdit au moment du déconfinement, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Le gouvernement l'a rayé du protocole en juillet quand la situation sanitaire s'améliorait. Sauf que la hantise des enseignants avec la reprise aujourd'hui de l'épidémie, c'est que des contaminations isolées ne s'étendent désormais à plusieurs classes et aboutissent du coup à la fermeture de toute une école ou tout un collège. Guylaine David est la porte-parole du syndicat SNUIPP.
Il faut revenir à la formulation qui était dans le protocole au mois de juin, où il ne fallait pas que les groupes puissent se rencontrer. Là, on parle de limitation de brassage des élèves, mais on n'interdit pas le brassage des élèves, donc on ne sait pas si les récréations doivent se passer avec l'ensemble des élèves de l'école, si les rentrées et les sorties des classes doivent se faire de façon échelonnée, si tous les élèves peuvent être mélangés au réfectoire. On a besoin d'avoir ces réponses-là et il faut que ça soit écrit noir sur blanc.
Parce que cette question du brassage est dénoncée notamment à La Réunion, où depuis la rentrée là-bas il y a 8 jours, 30 cas positifs ont été détectés. Pour 675 élèves et une centaine d'enseignants renvoyés chez eux, parfois 6 classes à la fois, considérées comme cas contact d'un seul élève positif.
Et vous avez par ailleurs une info, Théo, sur les enseignants qualifiés de vulnérables, ça veut dire les plus fragiles, pourront-ils ou non revenir dans leur classe?
La réponse est oui, avec des masques FFP2 qui leur seront fournis par l'établissement, nous dit-on au ministère. Mais ils ne seront pas obligés de revenir si leur médecin estime que c'est trop risqué. Certificat médical à l'appui.
Merci beaucoup Théo Manval. Un conseil de défense s'est donc tenu ce matin à l'Élysée, sous la houlette du président. Pas grand-chose n'a filtré, si ce n'est ce tweet un peu énigmatique d'Emmanuel Macron, et qui promet que des règles claires seront instaurées partout en France pour faire face à la reprise de l'épidémie et pour permettre à chacun de reprendre confiance.
Oui, pas d'annonce donc, ça viendra plus tard, sans doute. Pourtant, il y a un secteur notamment qui attend avec impatience de connaître l'évolution des mesures sanitaires, c'est le monde de la culture.
Oui, on sait que les théâtres notamment sont sinistrés avec des règles de distanciation très strictes, un siège sur deux, un nombre de spectateurs limité. Il faut que ça change absolument, estime Bertrand Tamine, le président du syndicat national du théâtre privé, qui interpelle la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
Elle s'est engagée à prendre des mesures dans le cadre du plan de relance. Et comme nous, nous espérons pouvoir rouvrir courant septembre ou au plus tard début octobre, on pensait un peu bêtement que le plan de relance serait opérationnel tout de suite. Et puis on apprend maintenant que ce sera au budget 2021. Le problème, c'est que les théâtres, c'est au quatrième trimestre 2020 qui risque de mourir, c'est pas en janvier 2021. Parce qu'on sait qu'on va quand même redémarrer les premiers mois dans des conditions un peu dégradées. Ça fait suite à 6 mois de fermeture et donc à des entreprises qui ont des trésoreries totalement à zéro. Quand elle nous a reçus, elle nous a accueillis en nous disant qu'elle avait notamment accepté ce poste parce qu'elle avait conscience qu'elle devait sauver le spectacle vivant. Elle a conscience, je crois, du grand péril qui nous guette et de grand accompagnement que nous méritons.
Bertrand Tamin, et non Tamine, pardon, à lui avec Diane Chenouda.
Les PME, elles aussi, ont beaucoup souffert de la crise. De nouvelles annonces aujourd'hui à leur intention.
Oui, le gouvernement étend les délais de remboursement des actuels prêts garantis et ils mettent aussi en place un nouveau système d'emprunt à très long terme. Écoutez la réaction de François Asselin, le président de la CPME.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait ce qu'il devait faire auprès des banques. Il a fait une pression amicale, en soulignant d'ailleurs qu'elles avaient fait un excellent travail jusqu'à maintenant pour la distribution des prêts garantis par l'État, ce qui est complètement vrai, hein, on peut tout à fait le reconnaître aussi. Mais maintenant, il était temps que les banques, eh bien, effectivement, nous disent quelles seraient les conditions d'étalement. Si nous voulons étaler le remboursement de nos prêts garantis par l'État, nous commençons à voir cette fourchette entre 1 et 3%. Ça veut dire que tout simplement, dans quelques temps, nous pourrons négocier avec notre banquier pour savoir eh bien, à quel taux nous allons rembourser, si nous voulons rembourser immédiatement ou d'une façon étalée notre prêt garanti par l'État. Donc maintenant, à chaque acteur économique que nous sommes, eh bien, d'essayer de tirer le meilleur parti avec ses partenaires financiers, donc nos banques, pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible.
Le président de la CPME, François Asselin, avec Carole Ferry.
La CNIL, le gardien de la vie privée des Français, enjoint à 4 communes françaises de mettre fin au système de verbalisation automatique par reconnaissance des plaques d'immatriculation. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, ils sont trop intrusifs pour la vie privée, paraît-il. C'est ce que dit la CNIL, qui rappelle que ces systèmes de sanctions sans intervention humaine, via une photo ou avec la lecture automatique de votre plaque d'immatriculation, eh bien que ces systèmes ne sont possibles que pour les entorses au stationnement payant. On a beaucoup parlé pendant les municipales, vous savez, du mal-être des maires. Certains d'ailleurs, on le sait, ont préféré jeter l'éponge avant les élections.
Oui, 233 agressions cette année pour l'instant, c'est 14% de plus que l'année dernière.
Et parfois de simples querelles de voisinage se règlent à coups de poing contre un élu. Illustration ce soir encore avec cette nouvelle agression.
Le maire d'une petite commune de Seine-et-Marne, violemment pris à partie, est frappé hier soir alors qu'il rentrait chez lui.
Et en cause, Justin Morin, un problème de stationnement.
Oui, un habitant mécontent ne supportait plus que ses voisins se garent devant chez lui sur, je cite, son trottoir. Le maire Laurent Simon l'ayant autorisé, pour l'agresseur, c'est bien lui le responsable de son malheur. Donc hier soir, il suit l'élu en voiture alors qu'il rentre chez lui, le double, et le force à s'arrêter sur la rue principale, lui assène une série de coups de poing. Le maire en ressort avec une côte cassée, une arcade sourcilière bien abîmée. Ce conflit de voisinage n'est pas récent, mais l'habitant mécontent a récemment fait poser des rochers devant chez lui pour empêcher quiconque de se garer. Le maire, sans étiquette, porte plainte pour les faire enlever.
Évidemment, il a créé un tel climat de tension dans son secteur, moi je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, qu'il a retrouvé sa voiture incendiée dans son jardin. Et tout est venu de là. Moi, c'est ma 13e année de mandat, je ne pensais pas que ça arriverait. Ça me choque même, parce qu'on est à plus de 200 agressions depuis le mois de janvier sur des maires en France. Il y a un moment, il va falloir que les réponses soient fermes, sinon ça s'amplifiera.
Alors le maire Laurent Simon a porté plainte, faut-il y voir un lien ? On vient d'apprendre que le Premier ministre Jean Castex s'emparait du sujet. Une réunion interministérielle sur le sujet doit se tenir dans une semaine à Matignon.
Merci beaucoup Justin Morin. Michel Fourniret auditionné aujourd'hui et demain. Les enquêteurs espèrent toujours qu'il va enfin dire ce qu'il a fait du corps de la petite Estelle Mouzin.
Mais les avocats du tueur en série appellent à la prudence tout de même après les accusations formulées la semaine dernière par son ex-épouse Monique Olivier.
On rappelle qu'elle a clairement accusé Michel Fourniret d'avoir séquestré, violé et étranglé Estelle Mouzin. La France dénonce un acte criminel après la confirmation de l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. L'affaire est en train de prendre un tour de plus en plus diplomatique. Et on en parle avec vous ce soir, Didier François. C'est votre éclairage international, comme tous les soirs, dans ce journal de 19h. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comme Berlin et comme l'Union européenne, Paris demande aujourd'hui une enquête. Sauf que Moscou, sans surprise, bien sûr, dit « niet ».
Voilà, on est face à un Kremlin totalement arc-bouté sur son déni, qui refuse de reconnaître l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, qui réfute jusqu'aux conclusions cliniques des médecins allemands et qui donc rejette évidemment toutes les demandes internationales d'ouverture d'une enquête criminelle, avec une logique d'ailleurs assez étonnante, expliquée ce matin par le porte-parole de Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent s'était bien gardé de faire la moindre déclaration. Les preuves, selon lui, ne seraient pas suffisantes pour déclencher une procédure judiciaire possible. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne cherche pas, eh ben, on n'est pas prêt de trouver.
Oui, les Allemands, eux, sont pourtant assez sûrs hein, qu'il s'agit bien d'un empoisonnement.
Oui, la preuve, c'est qu'ils ont placé dans sa chambre d'hôpital Alexandre Navalny sous la protection des agents du BKA, ce qui est exceptionnel parce que constitutionnellement, le contre-espionnage allemand ne peut assurer que la sécurité de la chancelière ou des hauts dirigeants du pays. Et ça a été décidé dès que les analyses biologiques ont révélé dans le sang du malade une substance neurotoxique de type militaire, la famille du VX, du sarin ou du Novotchik. Donc des poisons qu'on ne peut fabriquer que dans des laboratoires de très haute technicité et qui ont déjà été utilisés par les services russes à au moins 5 reprises depuis 2004. C'est ça qui embarrasse Moscou, parce que toute enquête sérieuse ne fera que renforcer les suspicions à son encontre, et que même si elle ne pourra certainement pas désigner le donneur d'ordre avec certitude absolue, eh ben Vladimir Poutine ne pourra pas échapper politiquement à la responsabilité de cet empoisonnement.
Merci Didier. L'œil de Didier François sur l'actu internationale, c'est tous les soirs dans votre journal de 19h.
Julien, vous vous en êtes sûrement rendu compte cet été.
Ah,
moi, oui, en tout cas, les guêpes ont pris leurs ailes.
Oui, c'est vrai qu'elles étaient partout, les guêpes, sur les étals des primeurs, des pâtissiers. Elles ont accompagné nos pique-niques et nos barbecues.
Des jardins aux terrasses, à la campagne ou en ville. Capucine Rouault, dites-nous, c'est une vue de l'esprit ou bien est-ce qu'il y en a vraiment plus que les autres années ?
Eh bien, manifestement, il y en a plus. Il suffit d'interroger les désinsectiseurs, ceux qui interviennent quand les gens sont dérangés ou menacés par les guêpes. On a eu des témoignages un peu dans toute la France et tous le disent. Ils ont multiplié les interventions, à l'image de Sébastien Dacosta, dont la société couvre toute la région parisienne.
On est débordé tous les jours. Le téléphone, il n'arrête pas. C'est voilà, deux, trois fois plus que l'année dernière, en l'occurrence. D'habitude, je fais toutes les interventions. Cette année, je suis obligé d'en refuser et de réduire mon secteur d'intervention parce qu'il y a une demande plus grosse que l'année précédente.
Alors, pour expliquer ce phénomène, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, l'hiver, les rennes, c'est-à-dire les guêpes qui fondent les colonies, sont tuées par le froid et plus précisément par le gel. Donc, si les guêpes sont plus nombreuses aujourd'hui, selon Quentin Rome du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est tout simplement à cause des températures plus élevées.
Du fait d'un hiver qui a été particulièrement doux, comme on n'a eu aucun coup de gel, mais ça veut dire qu'en fait, on a une survie qui a été augmentée de ces rennes-là, donc on a beaucoup plus de colonies qui ont survécu. Donc on est sur une année où il y a beaucoup plus de guêpes que d'habitude.
Selon lui, selon les remontées qu'il a du terrain depuis plusieurs semaines, les guêpes auraient été 5 fois plus nombreuses cet été que l'année dernière.
J'en étais sûre. Merci Capucine Rouault.
Pas de guêpes dans les salles de cinéma, heureusement, ça tombe bien parce que demain c'est mercredi, jour des sorties ciné.
Et on retrouve notre spécialiste cinéma, Mathieu Charrier en direct. Mathieu, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut aller voir demain ? Il y a un incontournable, hein, paraît-il, qui est très attendu par les exploitants de salles. C'est le premier blockbuster post-confinement, forcément. Ça s'appelle Tenet, c'est signé Christopher Nolan. Ça vaut quoi, Mathieu ?
Bah, vous savez, Christopher Nolan, dans ses films, il aime bien nous perdre avec des scénarios qui s'articulent autour du passé, du futur. C'est le cas de Tenet, quasi impossible à vous résumer. Je vais juste vous dire qu'en gros, un agent américain est chargé d'empêcher l'extinction de notre humanité, rien que ça. Extinction orchestrée par un homme, mais depuis le futur. Voilà, c'est compliqué. Tout va donc être question de temporalité dans le film. Et comme souvent, eh bien, on comprend les subtilités à la toute fin et on se dit qu'il faut retourner le voir une deuxième fois. Remarquez, c'est assez malin étant donné que les salles effectivement comptent sur Tenet pour booster leur fréquentation et puis surtout donner envie aux autres studios hollywoodiens de sortir leurs gros films des placards et de surtout pas les diffuser directement sur leur plateforme, à l'image de ce que vient faire Disney avec Mulan qui ne sortira finalement pas au cinéma mais sur Disney+. Ça c'est un coup dur pour les salles, ça sera le 4 septembre partout dans le monde, sauf en France où on a appris aujourd'hui que ça a été repoussé à une date ultérieure. Il reste donc un tout petit espoir de le voir au cinéma dans notre pays.
Bien, alors du côté des films français, Mathieu, il y a aussi le premier grand rôle de la très piquante Blanche Gardin au cinéma.
Oui, c'est dans
exactement.
Un film de Benoît Delépine, hein, c'est ça, et Gustave Kervan. Ça s'appelle comment ? Effacer l'historique, c'est ça ?
C'est ça.
Ça
c'est
parle
nouvelle...
de quoi, Mathieu ?
Bah, vous savez, c'est une nouvelle satire de notre société, comme souvent avec ce duo, ses réseaux sociaux, son système de notation, vous savez, quand vous prenez le Uber, etc. Alors ça se passe à travers trois personnages. Blanche Gardin, effectivement, qui est victime d'un maître chanteur. Il est joué par Vincent Lacoste. Il a filmé leurs ébats sexuels à son insu. Il menace, faute de paiement d'une rançon, de tout balancer sur Internet. Il y a aussi son amie Corinne Mazero, Captain Marlowe. Elle est chauffeur VTC. Elle est désespérée que les clients qu'elle transporte ne lui mettent pas plus d'étoiles. Et puis Denis Podalydès, qui doit aider sa fille à harceler sur les réseaux sociaux. Donc ces trois voisins de lotissement, amis gilets jaunes de la première heure d'ailleurs, décident de partir voire les géants d'Internet, pour essayer de faire bouger les choses. C'est un peu l'attaque des GAFA, mais à la sauce Carverne et Delépine, donc avec une certaine ironie, beaucoup d'humour, de potacherie. Voilà, Effacer l'historique avait reçu l'Ours d'argent au dernier festival de Berlin, et franchement, c'est un très bon film.
Elle joue bien Blanche Gardin, parce qu'on l'adore.
Très bien,
hein.
Blanche Gardin. Vous savez, on l'avait vu dans plein de petits rôles, dans oui. plusieurs films, et là, ça y est, elle
bon, on y va voir ça, Mathieu.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1.
Et ça sent le vécu, hein, le scénario du film. Merci, Isabelle Millet. C'était le journal d'Isabelle Millet qu'on retrouve demain à 18h. La météo.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
La météo, c'est avec Anissa qui nous annonce. Anissa, qu'est-ce que je lis ? Une belle journée de fin d'été demain ?
Oui, bah c'est la fin. Alors j'espère vous apporter un peu de
beau moqueur. Il y a du positif, c'est encore l'été, mais c'est la fin.
C'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Dans l'ensemble, la journée sera assez ensoleillée malgré un voile nuageux qui pourra de temps en temps masquer le soleil. Dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, les grisailles seront nombreuses demain matin avec quelques petites gouttes possibles, mais dans l'après-midi le vent va pousser les nuages. Le vent justement, il souffle fort sur le littoral des côtes de la Manche. Dans le sud, le vent d'ouest va se renforcer avec un risque élevé d'incendie. Prudence dans le sud. Et puis les températures, elles sont en baisse mais de saison. 20 à 24 degrés demain après-midi dans le nord-ouest, 25 à 30 sur la façade est de l'Alsace à la région Rhône-Alpes. Et puis dans le sud, il fait encore chaud demain, 28 à Nice, 36 à Saint-Tropez. Un conseil d'amis, profitez-en.
Voilà, et foncez sur la Côte d'Azur si vous en avez si la possibilité.
Pouvez, oui.
Merci Anissa.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Voilà, 19h15, la carte blanche du Club des Idées. On ouvre le Club des Idées à partir de 19h15 en direct sur Europe Soir. Et chaque soir, l'un de nos éditorialistes nous livre son coup de griffe ou son coup de cœur. C'est selon, sans détour. Ce soir, c'est l'économiste Nicolas Bouzou qui s'y colle. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Comment ça va ?
En pleine forme.
Bon, vous nous parlez ce soir de l'insécurité qui inquiète le gouvernement, qui inquiète les Français. Comment lutter contre l'insécurité, Nicolas ?
Voilà, évidemment, on a tous vu ces images ce week-end. Ce qui est tout à fait pénible, c'est que tout ceci est très prévisible, c'est-à-dire que ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'il n'y a plus une manifestation sans qu'il y ait des débordements et même plus que des débordements. Donc on voit bien qu'on peut prévoir les choses. Et pour moi, derrière ça, il y a vraiment un problème d'organisation de l'État et d'affectation des moyens. Quand vous regardez la dépense publique en France, vous savez qu'elle est très élevée. Si vous la rapportez au PIB, c'est la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. Mais quand on regarde un peu les choses dans le détail, on oui. voit en fait que cette dépense publique, elle est très peu investie dans ce qu'on appelle l'État régalien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'argent pour la défense. Alors ça augmente un peu, faut être honnête, mais il n'y en a pas beaucoup pour la police et il y en a très peu pour la justice. Je ne vais pas vous
quand
noyer
vous
tous les
peu.
Chiffres, mais alors, pas vous embêter avec les chiffres, mais sur 1 000 euros de dépenses publiques, vous avez 25 euros pour la police, c'est déjà pas énorme, mais vous avez 4 euros pour la justice. Une autre façon de voir les choses, c'est de regarder les dépenses de justice par habitant.
Et là, c'est très faible.
Et là, c'est le chiffre le plus faible quasiment de tous les pays de l'OCDE. On est aux alentours de 60 euros, là où on va être à 100 euros en Allemagne et 200 euros en Suisse. Il y a un véritable problème de la justice. On parle énormément de la police. Alors c'est normal parce que les policiers, en fait,
ils sont
on les
première
voit,
ligne.
Ouais, ils sont en première ligne. Oui. On les voit quand ça se passe pas bien, notamment on les voit. Et puis on entend du coup beaucoup les syndicats de policiers. C'est très bien, à juste titre, parce que, eh bien, vous allez les voir parce qu'ils sont aussi dans les manifestations. Mais les magistrats, on les voit pas, on les entend pas. Il n'y a pas d'argent dans la justice, donc il faut pas s'étonner que notre État régalien il fonctionne pas bien. Parce que la police arrête des casseurs, mais que derrière, l'institution judiciaire, elle ne peut pas suivre, parce que la justice est très lente, parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, parce que la profession de magistrat, elle n'est pas forcément très attractive aussi pour des raisons financières. Il faut bien dire ce qui est. Les salaires ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que peuvent attendre des magistrats. Et ben, on ne peut pas avoir un bon niveau de sécurité dans le pays. C'est ça ce que je veux dire. Vous voyez, donc derrière, il y a quand même une problématique économique, une problématique financière.
Donc on regarde le doigt qui montre le ciel, mais c'est le ciel qu'il faudrait regarder, c'est ça ?
Peut-être. En tout cas, il faut vraiment avoir une vision plus globale des choses. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a que cette problématique financière. Il y a des problématiques qui sont sociétales. La violence, elle n'est pas uniquement liée au fait que les magistrats ne sont pas suffisamment payés ou qu'il n'y en a pas assez ou qu'il n'y a pas assez d'argent dans la justice. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Et vous voyez, les pays autour de nous, je prenais le cas de l'Allemagne, je prenais le cas de la Suisse, ce sont des pays quand même qui sont pas très différents des nôtres. On est dans la même culture européenne, en tout cas, on va dire. Ce sont des pays qui affectent beaucoup plus d'argent à la justice, alors même que ce sont des pays qui ont des dépenses publiques en proportion du PIB très inférieures à ce qu'on a
donc
en France.
Donc plus de moyens pour la justice, si on vous écoute ce soir, Nicolas Bouzou. Et pourquoi, à votre avis, le curseur, la focale est systématiquement mis sur la réponse sécuritaire du point de vue des policiers, des gendarmes, et pas tant sur cette question du budget de la justice qui paraît à vos yeux essentielle?
Bien sûr, mais parce que je pense tout simplement que les policiers, on les voit, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la police. On l'a bien vu ces dernières semaines et même ces derniers mois, depuis le déconfinement, on a eu des débats sur le racisme dans la police, on a eu des débats sur la légitimité de la police. D'ailleurs, à mon sens, on est dans un état de droit, donc la police est par définition légitime, même s'il peut y avoir évidemment des sanctions à prendre quand il y a des dysfonctionnements, c'est évident, mais la police est légitime, mais elle est visible et elle sait se faire entendre. Ce qui est beaucoup moins le cas de la justice. Alors, ça va peut-être changer avec le ministre de la Justice qui, lui,
Monsieur
pour Éric le coup, bénéficie d'une aura médiatique tout à fait conséquente.
Et on suivra ça avec vous. Merci Nicolas. La
Merci
carte blanche
vous.
De nos éditorialistes du Club des Idées d'Europe Soir. C'est tous les jours à partir de 19h15 sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, une courte pause et on ouvre le débat du Club des Idées. Deuxième partie, des citadins qui partent en masse s'installer à la campagne. Le bonheur serait-il dans le pré? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22 sur Europe Soir avec le débat du Club des Idées. Si nous prenions tous la clé des champs, quitter la ville pour un grand bol d'air avec la crise du confinement, beaucoup de citadins ont en ligne de mire un changement de vie pour s'installer à la campagne. C'est ce que confirme une grande étude publiée aujourd'hui. En Ile-de-France, par exemple, 84% des cadres se disent prêts à se mettre au vert. Alors, est-ce si simple dans les faits? Le télétravail pour tous, oui, mais à quel prix? Et est-on face à un mouvement qui va redéfinir notre rapport au travail et notre cadre de vie? On en parle ce soir avec Bernard Vivier. Bonsoir. Directeur de l'Institut supérieur du travail, merci de votre présence. Philippe Gabillier, professeur de psychologie à l'ESP Business School et auteur de « L'art de changer de vie en 5 leçons », c'est aux éditions Saint-Simon. Bonsoir. Et Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, bienvenue à vous. Première question, est-ce que d'abord, Bernard Vivier, je me tourne vers vous, est-ce que ces chiffres vous étonnent? 83% de cadres qui veulent quitter l'Île-de-France et près d'un tiers qui disent rechercher activement, là aujourd'hui, un poste en région.
Non, ce n'est pas du tout surprenant tel que la question est formulée. Je vais peut-être un peu être provocateur, mais si, Monsieur Bugier, on vous demande, vous préférez être riche et bien portant que pauvre et malheureux?
La réponse, j'hésite.
Vous n'hésitez pas, c'est évident. Donc, voulez-vous vivre de façon agréable, détendue, dans un univers verdoyant, ou voulez-vous être contraint par une heure de transport, comme le sont les cadres en région parisienne, et entassé dans des grands immeubles et des bureaux en open space? La réponse est donnée. Maintenant, la
Mais
question...
on observe un mouvement tout de même.
Ah voilà, alors la question est là. Un, cette intention peut-elle se traduire dans les faits? Deuxièmement, l'économie, l'aménagement du territoire, l'organisation de la production, le permet-elle? Et sur cette deuxième question, la réponse est oui maintenant. Nous quittons une société industrielle, les activités de service se développent considérablement et les technologies, les moyens de communication électroniques, mais aussi les moyens de transport permettront dans l'avenir de façon plus appuyée de quitter les villes pour aller vers la campagne.
Alors, ça n'est pas un mouvement tout à fait nouveau, mais qui s'accélère. Il y a eu les grèves cet hiver dans les grandes villes. Il y a eu évidemment la crise du Covid avec le confinement. C'est ça qui accélère ce mouvement, Jérémy Pelletier?
Ça accélère clairement le mouvement. En fait, c'est déjà ce qu'on avait vu justement pendant le confinement. En fait, vous savez, ce grand mouvement d'exode sanitaire, en fait, touchait d'abord et avant tout le public dont on parle là. Quand on regardait sur l'ensemble des Français, bon, c'était pas un mouvement massif, l'exode sanitaire, c'est-à-dire qu'une grande majorité des Français, 90% des Français, ont passé le confinement chez eux. Vous aviez 4% qui sont partis de chez eux. Mais quand vous regardiez spécifiquement en Île-de-France et spécifiquement chez les cadres d'Île-de-France, là, vous étiez entre 17% et 20%. C'est les chiffres que nous, on a trouvés au sein de la Fondation Jean Jaurès, et c'est les chiffres aussi qu'avait trouvé, vous savez, l'opérateur Orange, qui a réussi justement à sortir ces chiffres-là de 17% de cadres parisiens qui sont sortis. Donc, effectivement, ce sont des gens qui ont vécu déjà ça pendant le confinement. Et donc, cette espèce de sentiment d'être en vacances tout en télétravaillant, et bien évidemment, ça se concrétise par des souhaits de départ.
Alors, on en parlera tout à l'heure du télétravail, peut-être demain pour tous les salariés, en tout cas ceux qui le peuvent. Philippe Gabillier, professeur de psychologie à l'ESP Business School, auteur, je le disais, de L'art de changer de vie en 5 leçons. Ça fait rêver d'ailleurs comme titre de bouquin, L'art de changer de vie en 5 leçons. C'est quoi les 5 leçons?
Les 5 leçons, c'est la première, c'est déjà se dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment si je change de vie? Je change quoi? Je change mon organisation, mon territoire, mes relations avec les autres, mon activité, je change tout. Bon, la deuxième question, ça va être de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de changer ? Est-ce que ce n'est pas uniquement réactionnel ?
Comment vous les sentez, les Français, aujourd'hui, de ce mouvement de vouloir s'installer à la campagne
pour fuir les villes ? Moi, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très réactionnel, c'est-à-dire, voilà, il y a ras-le-bol, quoi. Il y en a marre. En plus, en me posant cette question-là, on me donne le droit de rêver, quoi. Hein, on me donne une espèce de fenêtre sur mon désir d'évasion.
Mais si ça traduit quand même aussi un rapport au travail qui est peut-être en train de changer. Une récente étude montrait par exemple que 52% des salariés estiment que le bien-être au travail s'est plutôt détérioré ces dernières années. Est-ce que ça peut aussi expliquer cette envie de changer de vie ?
Oui, à condition qu'on regarde ce que signifie être bien au travail. Parce que dans le fond, être bien au travail, en soi, il y a des tas de thèses qui ont été écrites là-dessus, il en sort tout le temps. Franchement, être bien au travail, c'est pas très compliqué. Hein. C'est à peu, faire un travail qui me plaît à peu près, être traité avec respect et me permettre d'avoir des relations sociales qui sont de bonne qualité en ne détériorant pas trop mes relations familiales. Donc voilà, en soi, c'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin d'avoir des politiques RH très complexes par rapport à ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a des écosystèmes qui tendent à détériorer ça. Et on est un peu en plein dedans.
Bernard Vivier, je parlais du symptôme d'un changement d'époque, favoriser le cadre de vie plutôt que l'ambition de la réussite individuelle. Ça raconte quelque chose sur notre époque quand même. On préfère avoir un grand jardin, vivre à la campagne, prendre du temps long et profiter de sa famille plutôt qu'avoir une belle bagnole et vivre dans un grand appartement à Paris, à Bordeaux ou je ne sais où, à Nantes.
Oui, les deux sont pas antinomiques. On peut très bien développer une ambition professionnelle et souhaiter réaliser cette ambition professionnelle dans un cadre plus agréable que par le passé. Et rappelons-le, ça vient d'être dit, ce que nous venons de vivre avec le confinement, avec des difficultés de transport liées à des conflits sociaux, la RATP, la SNCF, les Gilets jaunes, tout cela a alourdi le climat. Et dans les métropoles, tout particulièrement dans la métropole de l'Île-de-France, de Paris, nous avons ce sentiment, chez les cadres, c'est l'objet de l'étude que vous citez, oui. Nous avons ce sentiment qui se développe qu'on serait mieux ailleurs. La possibilité de le faire, entre l'envie, la possibilité et le passage à l'acte, il va y avoir quand même beaucoup
Bien
de temps.
Bien sûr. Est-ce que ça concerne uniquement les cadres ou ça concerne aussi toutes les catégories socioprofessionnelles, indépendamment de la capacité financière à le faire, les ouvriers, les travailleurs indépendants ?
Oui, nous avons une évolution. Vous savez, la France était essentiellement paysanne dans les petites villes. Alors, la distinction, c'est moins de 2000 ou plus de 2000 habitants. Et encore, quand on dit 2000 habitants dans mon pays natal de l'Aveyron, ce n'est pas 2000 habitants en banlieue parisienne.
Je me disais bien qu'il y avait un petit accent qui chantait.
Voilà. cette envie de vivre à la campagne ou ailleurs, ça va se développer, bien sûr. Ça nécessite des transports. Le télétravail, dont on parle beaucoup en ce moment, va connaître un regain d'intérêt et des entreprises aujourd'hui, y compris industrielles, se lancent dans cette aventure du télétravail.
Alors on en parle juste après la pause. Est-ce si simple de changer d'air, de se mettre au vert ? Est-ce que ça n'est pas la nouvelle ligne de fracture sociale aussi ? On en parlera dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h31, on se retrouve effectivement dans Europe Soir, le club des idées, avec nos invités pour parler de la crise qui nous a, semble-t-il, fait réfléchir à nos modes de vie. Quitter la grisaille pour se mettre au vert, est-ce si simple ? On en parle avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, Philippe Gabillier, professeur de psychologie à l'ESCP Business School et auteur de L'art de changer de vie en 5 leçons, et Jérôme Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Tiens, question pour vous, Jérôme Pelletier. Est-ce que cette envie de changer de vie marque aussi une nouvelle ligne de fracture entre eux ceux qui ont les moyens d'avoir de grands appartements en ville et les autres, et ceux aussi qui n'ont pas les moyens d'imaginer une telle délocalisation ou une telle migration vers les campagnes.
Alors, on peut effectivement dire que ce mouvement-là est une nouvelle manifestation de la sécession, justement, d'une partie de la population par rapport à l'autre partie de la population, une nouvelle manifestation de la sécession des élites et des catégories supérieures. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut nuancer, c'est pas un souhait de départ dans les campagnes et dans la ruralité. D'ailleurs, on le voyait pendant le confinement. Il ne s'agit pas d'un exode et d'un exil dans le fin fond de la France et dans le fin fond de la campagne. C'était dans des territoires de villégiature, c'était dans des territoires très choisis. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'enquête cadre emploi que vous avez citée, c'est que quand vous interrogez justement les cadres sur les villes qu'ils aimeraient rejoindre, en fait, on n'est pas au fin fond de la campagne, on n'est pas dans la ruralité. Les trois premières villes, c'est Bordeaux, c'est Nantes et c'est Lyon. Et ce qui est très intéressant avec Bordeaux et Nantes, si vous vous souvenez, pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est les deux villes où le mouvement des Gilets jaunes a été l'un des plus violents, et notamment Bordeaux excepté Paris, est la ville où le prix du mètre carré a le plus augmenté au cours des 10-20 dernières années, dû justement à l'arrivée massive de Parisiens à Bordeaux. Donc finalement, je crois qu'il faut nuancer, c'est des villes très spécifiques, des villes très particulières et qui participent aussi potentiellement à une rupture, à une sécession qu'on a déjà vue aussi pendant les Gilets jaunes.
Philippe Gabillier, même question, est-ce que ce phénomène touche majoritairement les jeunes actifs, plutôt CSP+, comme l'on dit, c'est-à-dire des cadres et cadres supérieurs, qui ne veulent plus du modèle métro-boulot-dodo?
Oui, ça, il est clair que ça touche essentiellement ces catégories-là, avec effectivement cette idée selon laquelle on veut bien changer, mais on ne veut pas changer trop. En fait, on veut abandonner ce qui va être considéré dans l'imaginaire collectif comme étant les inconvénients parisiens, en partant du principe qu'on ne les retrouvera pas si on est à Bordeaux, Nantes, Marseille, Montpellier, etc. Il y a un aspect un peu fantasmatique là derrière. Et moi, j'ai discuté avec des... Moi, je suis bordelais d'origine. Donc, je discutais aussi, avec des bordelais. Ils me disaient, mais tu sais, dans le fond, ce qu'il y a de bien à Bordeaux, c'est que... On reconstitue assez rapidement des réseaux comme on avait à Paris. Ce qui, pour moi, qui suis bordelais d'origine, est assez fascinant parce que s'il y avait une ville où c'était compliqué, c'était bien celle-là. Oui. Et là, c'est un vrai problème parce qu'on peut se retrouver dans un endroit où on va être belle qualité de vie, tout va bien, mais pour reconstituer un réseau social, ce n'est pas toujours évident.
Mais quand vous disiez tout à l'heure, c'est du déclaratif, donc on verra si ça se confirme dans la réalité des faits, ces déménagements et ces gens qui partent en province, à Bordeaux notamment, mais aussi ailleurs. Il y a aussi l'idée que les cadres aujourd'hui seraient prêts à accepter des baisses de rémunération pour avoir un cadre de vie plus important. Je voyais un sondage qui disait que 53% d'entre eux se disent prêts à accepter une baisse de salaire pour pouvoir partir et encore une fois habiter ailleurs.
Oui, bien sûr, d'autant plus que dans la réalité parisienne, en fait, on peut avoir un salaire extrêmement correct. Dès l'instant où on a un salaire extrêmement correct, mais voilà, un certain nombre d'enfants, on veut une grande surface, c'est structurellement compliqué. Alors que voilà, à Nantes, bien sûr, Bordeaux, c'est cher. Mais en revanche, autour de Bordeaux, ou autour de Nantes, ou autour de Marseille ou de Lyon, il y a des endroits absolument merveilleux pour des prix qui sont absolument raisonnables. Donc, on comprend qu'on se donne le droit, on se donne le droit maintenant de rêver de ça. Le problème étant, on en a déjà parlé, celui du passage à l'acte.
Oui. Comment on fait pour passer à l'acte, Bernard Vivier?
C'est purement psychologique. Un jour, monsieur, madame, ou la famille décide, allez, on y va. Maintenant, ça se prépare. Et pour répondre à la question précédente aussi, la question du niveau de vie. Dans les grandes villes, à Paris tout particulièrement, la vie est chère, le logement est cher, les produits sont chers. Donc on peut très bien aller dans des régions où on gagnera moins, mais on gardera à peu près...
Donc le pouvoir d'achat sera...
Un pouvoir d'achat proche, même. Parce que le logement sera nettement moins cher et parce que les produits que l'on achète, notamment de première nécessité, seront moins chers.
Mais votre livre, L'art de changer de vie en 5 leçons, Philippe Gabillier, comment on fait concrètement si il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, qui ont envie de changer de vie, qui y pensent depuis longtemps et qui ont envie de passer à l'acte?
Déjà, on comprend que...
On démissionne, on se fait muter, transition professionnelle.
Il y a plein de solutions, mais quand on en est là, déjà, c'est tard. Déjà. Ça démarre par une négo, de toute façon. Ça démarre par une négo, non pas avec son patron. Ça démarre par une négo avec sa famille. Parce que changer de vie, ça veut dire, on s'en va tous, quoi. Il faut savoir qu'on abandonne, qu'on le veuille ou non, on abandonne. On abandonne des réseaux sociaux, on abandonne parfois des liens, on abandonne des territoires. Il y a ce qu'on appelle en fait les engagements concurrents cachés qui font que, voilà, sur le papier, c'est génial. On a été confiné à l'île de Ré pendant 2 mois et demi, c'était formidable. Mais déjà, il faut avoir un endroit où être confiné à l'île de Ré. Déjà, c'est pas tout le monde qui va faire ça. On retrouve en fait cette espèce aussi de syndrome de CSP+. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que je suis, ça c'est une question pour un psy, si vous voulez, c'est fondamental, est-ce que je suis sur une décision de vie de fuite de quelque chose d'abord? Et nous, on le sait bien, ça tient quasiment pas. Ça crée des frustrations et un jour ou l'autre, on décide de revenir. Ou on est sur une motivation de conquête d'autre chose. Et la conquête d'autre chose, ça se construit. Il faut qu'il y ait un projet derrière et en plus un projet collectif.
Alors Philippe Gabillier, si je vous dis j'ai envie de partir faire du fromage dans le Tarn, ce qui est un peu vrai d'ailleurs au demeurant, mais j'ai peur de sauter le pas, vous me dites quoi?
Vous avez raison d'avoir peur de sauter le pas. Vous avez raison, parce que la question qu'on devrait se poser, c'est quel est aujourd'hui, dans votre vie, votre niveau de satisfaction? Et la question clé, c'est pas qu'est-ce que je veux faire demain. La question clé, par rapport à un changement de vie, c'est monsieur, madame, où êtes-vous aujourd'hui dans votre vie et en quoi est-ce que c'est vous qui vous y êtes mené? C'est-à-dire, quelle a été la responsabilité qui fondamentalement reste la vôtre?
Le niveau de satisfaction, il est très difficile à définir. Est-ce que c'est ce qu'on possède? Est-ce que c'est son niveau de bonheur, si tant est que ça existe?
Oui, je peux vous dire, quand on est en intervention avec quelqu'un, on dit voilà, allez, on va jouer à un jeu. Sur de 0 à 100, aujourd'hui, votre vie familiale, c'est combien? Voilà, ouais. Votre bio, le boulot, la relation à votre part.
Donc, on fait quelques chiffres. Excel.
Comme, ouais, un petit truc, même pas Excel. On en discute, et puis rapidement, on voit bien les éléments. Quand quelqu'un commence à vous dire, oui, non, mais bon, mais au niveau familial, c'est formidable, non, c'est 70, 80. Mais c'est le boulot, c'est 15. Ah, voilà, ben, on va en discuter. Mais on est obligé, vous voyez, de partir sur le réel de la personne.
On continue d'en parler dans quelques secondes parce qu'on a encore plein de questions à vous poser les uns et les autres. 19h38, à tout de suite pour le Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h39, on est toujours dans le Club des Idées avec nos invités. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Philippe Gabillier, professeur de psychologie à l'ESCP Business School, auteur de L'Art de changer de vie en 5 leçons. Et Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Et on parle évidemment de l'appel de la campagne pour les cadres fantasmés ou réalité. Ce soir, on en parle avec nos invités dans le Club des Idées d'Europe Soir avec Jérôme Pelletier, à qui j'ai envie de poser cette question. Tout à l'heure, on entendait la psychologie qui joue beaucoup sur la réalisation de ce départ à la campagne. Comment ils sont acceptés, ces arrivées de citadins à la campagne ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, on a parlé des gilets jaunes tout à l'heure. Je pense qu'une partie de l'explication de la violence, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, des mouvements des gilets jaunes, est justement liée au fait que c'est une partie de la population bordelaise qui s'est fait chasser au cours des 10-20 dernières années de la ville et du centre-ville et qui est venue chaque week-end battre le pavé pour montrer, en tout cas, son mécontentement vis-à-vis d'un certain nombre de Parisiens qui étaient venus effectivement dans la ville.
On a vu des tags à Bordeaux. Hein, alors, des tags rentrés chez vous, les Parisiens, parce qu'avec le TGV qui met maintenant 2 heures, je crois, pour arriver à Bordeaux. Ouais. Un, il y a beaucoup de Parisiens qui se sont installés là-bas, et puis les prix de l'immobilier, évidemment, ont monté en flèche.
Absolument.
Ce qui déplaît aux habitants historiques de Bordeaux.
Excepté Paris, c'est la ville de France où le prix du mètre carré a le plus augmenté au cours des 10 et 20 dernières années. Et ce qui est très intéressant aussi dans votre question, quand vous parlez des réactions, on a vu au bout du premier jour, au deuxième jour après que le confinement ait été décrété, des mouvements très violents à l'île de Ré, à Belle-Île, dans un certain nombre de lieux de villégiature.
On en a beaucoup fait, mais je crois qu'en réalité, c'est resté marginal.
En tout cas, ça correspondait quand même un sentiment que il y avait les natifs, oui. Il y a les locaux, et en gros vous savez, c'est le clivage entre ceux qui sont partout et ceux qui sont quelque part. Ce que David Goudard dit, les somewhere et les anywhere, et ben là je crois que les natifs étaient un peu rétifs au fait que des Parisiens débarquaient potentiellement avec le virus.
Jérémy Pelletier, je vous pose la question avec un petit peu de malice évidemment, parce qu'il y a une affaire qui a défrayé la chronique, c'est celle de Corinne Fesseau, propriétaire du Coq Maurice sur l'île d'Oléron. Écoutez-la.
Les gens viennent pour se prendre quelques jours de vacances ou voir leur traite. Maintenant, s'ils n'aiment pas venir à la campagne pour entendre du bruit, il ne faut pas qu'ils viennent ici ou à Oléron ou n'importe où. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors là, on voit de plus en plus de procès contre des vaches, contre des grenouilles, contre des canards, contre un coq, contre des cloches. Voilà, c'est plus possible, quoi.
Oui, il y a une image fantasmée de la campagne et de la vie à la campagne, Bernard Vivier, de la part des citadins. On veut quelque chose d'aseptisé, pas de son des cloches, pas les cigales qui chantent dans les champs de...
Oui, parce que notre pays, on le disait tout à l'heure un peu rapidement, notre pays a été pendant des siècles et des siècles un pays peuplé de paysans. La France, jusqu'au milieu du XXe siècle, était massivement paysanne. Et quand l'industrie qui s'est développée à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle... attirer du monde dans les villes, nous avons évidemment perdu le sens de la campagne. Pas uniquement le lieu de la campagne, mais aussi le sens de la campagne. Aujourd'hui, il y a 67 millions d'habitants en France, 50 millions, c'est-à-dire 3 sur 4, habitent dans les villes. Et seulement un quart habitent dans les villes, enfin les lieux de moins de 2000 habitants, les communes de moins de 2000 habitants.
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce qu'on parle beaucoup d'émigrer vers la campagne. En fait, c'est un retour aux sources. Je regardais une étude tout à l'heure en préparant l'émission, seulement 26% des cadres sont nés à Paris. Donc en fait, c'est un retour sur les terres de naissance.
Oui,
sur les terres
parce que le besoin d'enracinement, c'est un besoin très important. Nous avons besoin d'avoir des racines. Et nous avons besoin à la fois de nous ouvrir aux autres pays européens, aux autres pays du monde. Et nous avons besoin aussi d'une identité collective. Et la terre, évidemment, est un de ces moyens de s'enraciner. Mais soyons très attentifs. Il y a un équilibre à trouver. Aller à la campagne ou vivre dans les campagnes, ça ne doit pas être un repli identitaire. Oui. C'est très important, ça.
Philippe Gabillier, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Il y a une vision un peu fantasmée de la campagne, sans bruit, sans odeur, sans agriculteur.
Il y a une vision fantasmée, mais qui, heureusement, est marginale. Hein, parce que si on regarde l'étude cadre-emploi, on se rend compte que, bon, aller à la campagne, 15%, quoi, hein, une petite ville de moins de 50 000 habitants, 13%. En revanche, il y a quand même une grande majorité, c'est grande ville, grande métropole, etc. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien la différence qu'il y a entre les gens qui vous disent, dans le fond, quand je dis « je veux quitter Paris », je veux quitter Paris pour faire la même chose, mais dans des meilleures conditions. Donc ça, on comprend bien. Puis il y a ceux qui veulent carrément changer de vie, changer de tout. Or, comme par hasard, parce que moi, économiquement, vous prenez les villes qui sont les villes où les quatre premières villes, le quartier de tête, Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier, je dirais, alors pour Lyon, je veux bien, Nantes un peu, mais Bordeaux et Montpellier, en termes de bassin d'emploi, c'est pas non plus... alors que les gros bassins d'emploi, les gens ne se battent pas pour y aller. Hein, Nancy, Saint-Étienne, Strasbourg, Orléans, Lille. Bon, donc, je crois qu'il y a vraiment cette notion de... Quand on parle de quitter Paris... ça demande vraiment à ce qu'il y ait un projet. C'est pour ça, d'ailleurs, beaucoup de gens ne passent pas à l'acte. C'est qu'il ne suffit pas de dire « j'aimerais tout balader ». Ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que je suis prêt en fait, à remettre en question et à abandonner? Parce qu'on dit « je suis à Paris, donc plus rien ne va ». Il faut quand même se poser la question. Je quitte Paris, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des choses que je faisais et que je ne ferais plus? Pas tellement moi, d'ailleurs, ni moi, mais mes enfants, mon conjoint, oui. Et ainsi de suite. D'où cette idée de négociation quand même familiale, qui pour moi est absolument centrale dans les changements de vie réussis, sauf quand on part tout seul.
Non mais c'est mieux en général dans la vie de faire un projet en famille, on est d'accord.
C'est quand même mieux. Hein.
Bon, voilà. Jérémy Pelletier, est-ce que ça peut impacter aussi les zones rurales et les villes moyennes, mais positivement j'allais dire, en développement l'associatif, en développant l'offre culturelle par exemple, en développant un certain nombre d'habitats, de mobilité, est-ce que ça peut participer à développer les territoires?
Alors si on parle là pour le coup des territoires ruraux et de la campagne et d'un public dont on a peu ou pas parlé depuis le début de l'émission, ce sont les jeunes, ce sont les trentenaires qui ont une aspiration potentiellement, eux, à changer de vie, parce que vous savez, c'est une partie de la génération qui est dans ce qu'on appelle les bullshit jobs. C'est quelque chose qu'on a théorisé au cours des deux ou trois dernières années.
Les emplois qui ne servent à rien.
Les emplois qui ne servent à rien.
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant le confinement, il y a plein de gens qui ont réalisé, d'ailleurs ça a été une source d'une forme de déprime, qui ont réalisé qu'ils avaient des emplois qui ne servaient pas à grand-chose. Et comme on a beaucoup vanté les emplois en première ligne, les soignants, les médecins, les pompiers, les policiers, les éboueurs, etc., etc., c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de à quoi je sers dans la société.
Absolument, sentiment d'inutilité justement qui est lié aussi à la place du télétravail, parce que la place du télétravail repose justement la question de l'efficacité et donc en sous-jacent la question de l'utilité. Et donc c'est ce que Jean-Laurent Casselli appelait les révoltes et la révolte des premiers de la classe, c'est une partie de ces trentenaires-là qui veulent justement partir pour aller faire potentiellement du fromage dans le Tarn.
Alors c'est la dernière partie du Club des Idées, du débat du Club des Idées, le télétravail pour tous, peut-être demain, on en parle dans un instant, 19h46 dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h48, on est toujours dans le débat du Club des Idées. On parle ce soir de cette grande migration des citadins, des Parisiens, notamment vers la campagne. 83% des cadres qui disent aujourd'hui vouloir partir s'installer à la campagne. On en parle avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, Philippe Gabilier, professeur de psychologie à l'ESCP Business School, et Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Alors, juste avant la pause, on évoquait le télétravail, une façon aussi de pouvoir habiter loin de son lieu de travail. On a découvert ça pendant le confinement. Mais est-ce si simple, le télétravail? Écoutez ce qu'on disait il y a peu sur nos antennes, le patron du MEDEF, Geoffroy Drouot de Bézieux.
Il faut quand même le dire, tous les métiers ne se prêtent pas à ça. On estime qu'il y a 20% des postes qui peuvent être télétravaillés, 20 à 25%. C'est-à-dire qu'il en reste 75% sur lequel il n'y a pas de solution pratique.
C'est souhaitable, le télétravail pour tous, Bernard Vivier?
Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas souhaitable. C'est un phénomène qui grandit. Et nous pouvons, grâce aux moyens actuels de communication...
Mais ça fait l'affaire des entreprises ou l'affaire des salariés?
Les deux. Et ça fait aussi l'inquiétude des salariés des entreprises.
Pourquoi?
Il faut être très balancé. Le télétravail a d'immenses avantages pour les entreprises. La productivité est meilleure. Il n'y a pas des locaux, ça fait baisser l'effort carbone. Pour les salariés, c'est du gain de temps. À Paris, rappelons-le, un cadre ou un salarié, il passe une heure de trajet.
Une heure dans les transports.
Dans les transports, aller et retour.
Oui.
Si vous faites du télétravail à raison de 2 jours par semaine, vous avez économisé en gros une demi-journée.
Oui.
Non pas dans les transports, mais chez vous.
Mais on dit aussi...
Philippe... Et des inconvénients. Des inconvénients, c'est-à-dire je suis chez moi, je travaille en télétravail. Est-ce que je suis chez moi ou dans l'entreprise? Conciliation vie personnelle, oui. Vie familiale et vie professionnelle. Et puis pour les entreprises aussi... une entreprise, c'est une collectivité, une communauté.
C'est la question que j'allais vous poser, Philippe Gabillier.
Où vais-je rencontrer mon collègue de travail ?
Peut-être vous allez compléter. Voilà. C'est vrai que le télétravail, c'est aussi une perte de lien social et de cohésion de l'entreprise.
Oui, c'est qu'on disait à l'instant que tous les métiers ne s'y prêtent pas, mais tous les projets professionnels ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent, je dirais, à la fois très concentré sur son travail, mais assez en dehors de toutes les dynamiques de carrière à l'intérieur de sa boîte, etc., il n'y a pas de problème. Simplement, celui qui va télétravailler vraiment à fond, complètement, qu'il le veuille ou non, ou qu'elle le veuille ou non, va sortir des radars. C'est-à-dire qu'on risque, en étant vraiment, quand on fait du télétravail pur et dur, hein, c'est-à-dire on est vraiment du genre 3 jours ou 4 jours en télétravail, puis un seul jour en entreprise, on risque de perdre des opportunités. Oui. Et quand on doit former quelqu'un, on va penser à celui qui fait le télétravail ou celui qui est en entreprise avec les autres. Donc voilà, ça a aussi un certain nombre peut-être d'inconvénients.
Mais on peut quand même là parler de révolution de mode de vie, de rapport au travail. Jérémy Pelletier, on peut maintenant habiter, pour reprendre l'exemple qu'on utilisait tout à l'heure, habiter dans le Tarn, habiter à Bordeaux, habiter je ne sais où, à Marseille quand on est parisien et travailler à distance. Et ça peut durer, ça peut durer un certain nombre de temps.
Alors, il y a ça, il y a le rapport à l'espace qui est effectivement une révolution qui est liée au télétravail. Il y a aussi la relativisation en fait, de la place du travail dans nos vies. Finalement, le confinement nous a montré qu'une journée de 9h à 18h avec une efficacité redoutable qui est liée à l'absence de réunions, à l'absence d'un tas de choses qu'on peut considérer comme étant des choses inutiles, justement à faire relativiser la place du travail dans nos vies. Or, la France pourtant se caractérisait par rapport à la place du travail dans notre identité. Juste un élément pour ajouter sur ce sujet. Tout le monde n'est pas en capacité de faire du télétravail. Je rappelle juste que le confinement
25% des salariés, disait Geoffroy Roux.
Exactement. Pendant le confinement, on pouvait considérer qu'il y avait trois sortes finalement de Français. Vous aviez un tiers qui était en télétravail, un tiers qui était sur le terrain et un tiers qui était chômage partiel, chômage technique. Et quand vous regardiez uniquement ceux qui étaient en télétravail, vous aviez 70% des cadres qui étaient en télétravail. Donc, c'est quand même une rupture sociologique réelle.
Inégalité sociale, là aussi, d'une certaine manière, Bernard Vivier, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas le faire et puis ceux qui font avec leurs mains, on pense aux ouvriers
inégalité
notamment.
Inégalité sociale, non pas vraiment, parce que c'est moins une question de niveau d'instruction, de niveau de responsabilité que de type d'activité. Une entreprise comme PSA, qui a lancé le télétravail dès 2014, est en train d'accélérer le mouvement, évidemment avec des accords négociés avec les syndicats, et pour faire très attention à ce que le maximum de personnes puissent y aller. Évidemment, un opérateur sur chaîne ou un ingénieur sur un site de production, il ne peut pas le faire, mais un cadre ou une secrétaire dans un centre administratif de ce groupe industriel peut le faire. Et dans cette entreprise, 40% des salariés du groupe sont invités dans les mois et les années à venir à aller en télétravail. Donc la direction essaye de bien mesurer le pour et le contre. En tout cas, le confinement nous a montré une révélation de ce télétravail. Ça va baisser considérablement, les 30% que vous citez, évidemment, c'est retombé, mais il y a aujourd'hui un mouvement de réflexion, et d'ailleurs, le monde patronal n'est pas très optique, pas très porté à négocier.
Bon, et si je vous invite dans 6 mois, vous êtes toujours à Paris ou vous avez fiché le camp à Marseille, Bordeaux, dans le Tarn ?
Je vais vous répondre qu'importe, puisque vous-même, vous serez peut-être dans votre Tarn à organiser ce débat
en télétravail. En téléradio à distance. Merci à mes invités. Merci à tous d'avoir été beaucoup ce soir dans le grand débat du Club des idées. Tiens, le Club des idées d'Europe 1 qui se poursuit avec les archives Europe 1. Un œil dans le rétroviseur pour comprendre l'actu et éclairer le présent. Ça s'appelle le jour où.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Bonsoir Aurélien Fleureau.
Bonsoir
Julien. On parle avec vous de la relance des trains de nuit. Oui, le gouvernement l'a annoncé, ça y est, la SNCF est sur les rails. Cela doit faire partie du volet transition écolo du plan de relance avant de quasiment disparaître. Les trains de nuit ont longtemps, on s'en souvient pour les plus anciens, symbolisé une certaine idée du voyage et même de l'aventure.
C'est vrai que les trains de nuit, dans notre imaginaire, dans nos souvenirs, c'est un départ à la nuit tombée, vous quittez la grisaille des grandes villes, vous fermez les yeux et voilà, le lendemain matin, vous êtes réveillé par les rayons du soleil de la Côte d'Azur, les vacances, le temps long, le voyage. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter cet extrait des Dossiers extraordinaires. Nous sommes le 24 avril 1977,
Pierre Bellemare,
sur Europe numéro 1.
Un train la nuit, c'est beau. L'obscurité ajoute à l'aventure. Dans l'ombre, tout est possible, qu'on l'imagine ou qu'on le vive. La nuit, de pâle lumière éclaire les compartiments où les voyageurs ont mis la veilleuse. Certains ont fermé les rideaux. Les couloirs vides ressemblent alors à de longs boyaux solitaires.
Voilà, le décor est planté. Vous aurez évidemment reconnu Pierre Bellemare. Les voyageurs peuvent donc se laisser bercer par le bruit du train de nuit.
C'est beau la balle mécanique.
On repart loin en arrière.
Alors de quand datent les premiers trains de nuit en France?
Alors 1850, en fait les premières lignes longue distance sont créées. Le temps de parcours est tellement long que de fait on voyage la nuit. Mais pour avoir les premières voitures-lits avec des couchettes, là il faut attendre 1872 et la création de la compagnie des wagons-lits. Et puis en fait c'est surtout à partir de 1930 qu'ils sont à la mode. En fait c'est l'époque où c'est chic de voyager dans un train de nuit.
Et après la Seconde Guerre mondiale, la SNCF commence à constituer un réseau de ces trains de nuit.
Oui, là, de plus en plus de villes sont desservies, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces trains de nuit servaient aussi à transporter le courrier, à livrer des bagages. Bref, il y a énormément d'arrêts et ce n'est pas tout le temps d'un grand confort. Par exemple, sur la ligne Paris-Cherbourg, eh bien, il n'y a que des places assises, hein, pas de couchettes. Mais ce mode de transport plaît aux Français, le trafic double. Et au début des années 80, eh bien, cela représente 16% des voyageurs à la SNCF.
Alors, ça plaisait à tout le monde, mais Aurélien, à partir des années 80, c'est un lent déclin qui s'amorce.
Oui, vous avez la montée en puissance du TGV, ce qui réduit évidemment les temps de trajet. La fréquentation des trains de nuit va régulièrement baisser. Il y aura une tentative de relance en 2004 avec la marque Corail Lunéa. La SNCF va moderniser les trains couchettes et cela donne par exemple ce type d'annonce sur les quais de gare.
Ce train dessert Moret-Veneux-les-Sablons, Nemours-Saint-Pierre, Montargis, Nogent-sur-Vernisson, Gien, Briard, Cône, La Charité et Nevers.
Je rêve de rencontrer la voix de la SNCF, j'adore cette voix depuis toujours,
Simone.
Depuis tout petit. Il y a un aspect qui a terni la réputation des trains de nuit, c'est la sécurité à bord, en particulier pour les femmes.
Et effectivement, à tel point que la SNCF a essayé de répondre à cette question de la sécurité avec la création de wagons réservés aux femmes. Là, on en parle sur Europe 1 le 28 avril 2000.
La SNCF va supprimer les arrêts d'abord en pleine nuit. Les contrôleurs pourront ensuite bloquer les portes extérieures par un système télécommandé. Mais surtout, des compartiments seront réservés aux femmes.
Et pour expliquer ce dispositif, on interroge un certain Guillaume Pépi. Il est alors directeur clientèle.
Oui, ça c'est une demande de nos clientes qui est très forte. Les contrôleurs pourront leur proposer un compartiment exclusivement réservé aux voyageuses, qui sera d'ailleurs placé pas loin du contrôleur. Ça accroîtra la tranquillité et le sentiment de confort.
Comme quoi, directeur clientèle, ça mène loin, hein, puisqu'il est devenu patron de la SNCF quelques années plus tard. Mais malgré ces tentatives, les voyageurs délaissent les trains de nuit jusqu'à un quasi-abandon de ces lignes au fil des années.
C'est ça, ligne après ligne, l'offre se réduit, la demande s'effondre. Alors la SNCF arrête de moderniser les trains. Annonce toujours sur Europe 1 le 21 juillet 2016.
Cette page à la SNCF qui va se tourner. La majeure partie des trains de nuit va disparaître. L'État ne veut plus mettre d'argent. Et la compagnie ferroviaire n'a pas trouvé de repreneur. Seules deux lignes de trains de nuit fonctionneront.
Mais quatre ans plus tard, le 14 juillet 2020, Emmanuel Macron annonce la relance des trains de nuit. Cela correspond à une demande de la Convention citoyenne et puis à un mouvement généralisé en Europe de citoyens qui expliquent qu'ils préfèrent voyager plus longtemps en train qu'en avion par exemple. Alors, il ne faut pas s'attendre à 15 nouvelles lignes hein, là en France d'un coup dès la fin de l'année. Mais par exemple, les trains Nightjet qui ont été lancés en Autriche, eh ben, ils ont du succès et ça permet de voyager en Allemagne, en Suisse ou en Italie. Et pour terminer, Julien, j'ai envie de vous proposer un accompagnement musical pour votre prochain voyage en train de nuit parce que je pense que vous allez bientôt réserver.
Avec plaisir.
Alors, je vous ramène en 1962, Petula Clark.
Et ça swing ici dans le studio d'Europe Soir. Merci beaucoup Aurélien Fleureau pour cette chronique. Le jour où, tous les soirs à 19h50, on regarde dans le rétro pour éclairer l'actualité.
Europe 1, Julien Bugier.
Voilà, 19h58, c'est fini pour le grand club des idées. 18h-20h, on se retrouve demain, même lieu, même heure. On écoute évidemment Le Monde Changé sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Émilie Mazoyer avec de la musique encore et toujours. À tout de suite, Émilie.